Alors, merci Jean-Claude et son groupe, Elias, tous les musiciens, les choristes, pour ces beaux chants de louange, de reconnaissance envers notre Dieu. On a eu un petit problème technique, il faut que vous disiez, il n'y aura pas de PowerPoint ce matin. Il faut dire que ce soit le Power Spirit, comme on dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai envoyé mon fichier par l'extranet et même j'ai pris aussi ma clé USB, mais ni l'un ni l'autre fonctionne. Mais le Seigneur est présent et on va compter sur sa grâce et sur sa puissance de transmettre le message quand même sans l'aide visuelle. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, trouver l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 8, ce merveilleux chapitre, tellement plein de grâce, de bénédiction, de richesses, de bijoux, de perles. Et notre texte pour ce matin, c'est le verset 12 et 13, Romains 8, 12 et 13, texte que j'ai intitulé « Armée pour la guerre, mais... » Il y a une question qui est attachée à ce titre. Avez-vous déclaré la guerre contre le péché? Dieu nous a armés pour la guerre, mais vous, est-ce que vous avez déclaré la guerre contre le péché? Vous savez, comme j'ai dit, c'est une chose d'être un soldat dans l'armée du Seigneur. Et ça, c'est vrai. Dans 1 Timothée, 2 Timothée 2, 3, Paul exhorte Timothée de souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et nous sommes tous des soldats dans l'armée de Christ. Mais c'est tout autre chose d'être activement et continuellement en guerre contre notre ennemi qui est le péché. L'histoire nous raconte que lors des guerres puniques entre Rome et la ville de Carthage, c'est une ville qui est située au nord de la Tunisie actuelle aujourd'hui. La puissante armée romaine, bien qu'elle ait remporté les deux premières guerres, a connu quelques revers et humiliations. Cela a poussé les Romains à rechercher par vengeance la victoire totale. Et c'est ce qu'ils ont réalisé lors de la troisième guerre punique, quand la ville de Carthage a été complètement rasée, brûlée, et les survivants ont été vendus comme esclaves. Selon la tradition, un nommé Caton l'Ancien, qui était un sénateur romain à l'époque, prononçait une formule. Carthago delenda est. Carthago delenda est. Il faut détruire Carthage. À chaque fois qu'il commençait ou terminait un discours devant le Sénat de Rome, quel qu'en soit le sujet, c'était toujours qu'il martelait. Il faut détruire Carthage. Et cette formule est utilisée aujourd'hui pour parler d'une idée fixe dont on poursuit avec acharnement la réalisation. Alors, bien-aimés, le péché doit être détruit. Avez-vous déclaré la guerre contre lui? Poursuivez-vous ce but avec acharnement? Alors, lisons notre texte pour ce matin, Romains chapitre 8, et le verset 12 et 13, qui est une sorte de conclusion, où Paul dit aux Romains, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Voilà. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, avant de commencer l'étude de ce texte, il serait bon de se remettre dans le contexte de Romains chapitre 8, versets 12 et 13. Surtout si vous êtes ici avec nous pour la première fois, ou bien si vous étiez absent pendant les dernières semaines. Alors rappelons que nous sommes en train d'étudier, ou plutôt que je devrais dire de savourer, les grandes bénédictions qui découlent de cette doctrine glorieuse qui est la justification par la foi seule. Et nous avons cette doctrine dans Romains 3, 21 à 24, pas besoin d'y tourner, mais je vous le cite. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine de la justification. Quelle bonne nouvelle, quelle belle nouvelle. Pécheur coupable, exposé à la colère de Dieu, Romains 1, 18. La colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Le pécheur exposé à cette colère d'un Dieu qui est trois fois saint, condamné à la mort, condamné à l'enfer pour toute l'éternité, ce même pécheur est maintenant déclaré juste par ce même Dieu trois fois saint à cause de sa foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Où le juste, c'est Christ, meurt pour les injustes. Il va prendre sur lui-même les péchés du coupable et il va transférer sur le coupable sa justice. Quelle transaction et quelle démonstration de l'amour de Dieu. Alors, ça, c'est notre thème pour ce matin. Et quelle démonstration de la grâce de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la doctrine de la justification par la foi. Et de cette doctrine découlent de très riches bénédictions. Et je vous en file le 10 rapidement. Premièrement, Romains 5, 1, étant donc maintenant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça commence là. Pourquoi? Parce que Dieu est en colère contre le péché. Et la première chose qu'il va donner aux pécheurs repentants, c'est la paix avec lui. Tout commence là. Sans la paix avec Dieu, la porte est fermée à toutes les autres. Mais cela ne s'arrête pas là, il y en a d'autres. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous demeurons fermes, l'apôtre dit, Romains 5, 2. Deuxième bénédiction. Et nous avons quoi? L'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance et la gloire de Dieu. L'espérance qu'un jour Jésus va revenir et nous serons transportés dans la gloire. Nous avons aussi l'amour, quatrième bénédiction. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons aussi cinquième bénédiction, la vie éternelle, Romains 5, 20, 21. Là où le péché a abondé, quoi? La grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Sixième bénédiction, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Septièmement, nous sommes non seulement justifiés, mais nous avons été aussi sanctifiés, mis à part pour Dieu. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez, non pas vous aurez, mais vous avez pour fruit la sainteté. Quelle grande bénédiction. Huitièmement, notre vie est maintenant une vie productive. Une vie qui porte du fruit. Vous avez été mis à mort, Romains 7, 4, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Neuvième bénédiction, nous avons un service. Un service qui vient de l'intérieur, d'un cœur rempli de gratitude, et non de l'extérieur par l'observation rituelle des règles. Romains 7, 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Et la dixième bénédiction de la justification qui découle de la justification par la foi, nous ne sommes pas condamnés. Et nous ne le serons jamais, jamais, jamais. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle glorieuse bénédiction. Et tellement grandiose, tellement magnifique, tellement majestueuse, tellement sublime. Et mettez-y tous les qualificatifs que vous voulez. Paul va prendre un chapitre au complet, le chapitre 8, pour en parler. Quelqu'un a bien dit, si les Écritures se sont comme un anneau, et si Romains chapitre 8, c'est comme une pierre précieuse. Si les Écritures ressemblent à un anneau, si l'Épître aux Romains est comme une pierre précieuse, alors Romains chapitre 8, c'est comme l'éclat, justement, de cette pierre. Tellement elle est riche, tellement elle est précieuse. Si on cherchait un thème pour Romains 8, j'aimerais vous suggérer le suivant, la vie en Jésus-Christ par l'Esprit. La vie abondante en Jésus-Christ par l'Esprit. Quelqu'un a déjà dit que ce texte, ce chapitre-là, appartient à l'Esprit. Parce que l'Esprit est mentionné au moins 19 fois en tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans Romains chapitre 8, Paul va nous démontrer le Saint-Esprit à l'œuvre. Il prend l'œuvre de Christ, sa mort expiatoire sur la croix, et il l'applique aux pécheurs repentants, afin que cette œuvre devienne une réalité dans sa vie. Et du fait que le Saint-Esprit opère ces choses dans le croyant, dans le pécheur repentant, il est libéré de la condamnation qui pesait contre lui. C'est pourquoi Paul peut dire maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui vivent en Jésus-Christ par l'Esprit. J'aimerais vous donner cet aspect qu'on trouve dans Romains chapitre 8 de la vie de Christ, la réalité de la vie de Christ que le Saint-Esprit va opérer pour nous, les croyants. Nous avons déjà vu trop avec Michel dans les semaines précédentes. Le quatrième, c'est notre thème pour ce matin. Et Dieu voulant, dans les semaines à venir, nous allons voir les trois autres. Vous savez, les prédicateurs, les vieux prédicateurs avaient une habitude. Il disait, hey, ce matin, je vous donne les vitamines. Alors, ce matin, je vous donne la vitamine A. Alors, aucune condamnation pour le croyant, parce que par le Saint-Esprit, il est affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce que Paul va dire dans Romains chapitre 8, au verset 2. La loi d'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, le Saint-Esprit prend l'œuvre de Christ, il l'applique aux croyants et il est affranchi maintenant de cette loi du péché et de la mort qui le retenait avant qu'il était sauvé. Aucune condamnation parce que, deuxièmement, le croyant maintenant est capable d'accomplir la justice de la loi. La justice que la loi exigeait par le Saint-Esprit, le croyant est capable maintenant de l'accomplir. Romains 8, 4 nous dit ceci, Dieu a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, si nous marchons selon l'Esprit, et si nous accomplissons cette loi qui nous condamnait, il n'y a maintenant aucune condamnation. Parce que le Saint-Esprit produit en nous, nous permet d'accomplir la justice que la loi exige. Troisièmement, aucune condamnation, parce que par le Saint-Esprit, le croyant est animé d'une nouvelle nature et s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça, c'est Romains 8, 5 à 11. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Nouvelle nature. Quatrièmement, aucune condamnation parce que par le Saint-Esprit, et c'est notre texte pour ce matin, il est armé pour la victoire. Il peut remporter maintenant la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cinquièmement, aucune condamnation parce que par le Saint-Esprit, il est assuré de son adoption comme fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est une conviction qu'il a dans son cœur, donnée par le Saint-Esprit, son assurance. Aucune condamnation, sixièmement, parce que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, il a été approuvé. Approuvé pour la gloire. Romains 8, 17, 18. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Septièmement, aucune condamnation parce que par le Saint-Esprit, il reçoit une aide précieuse pour ses prières. Ça, c'est Romains 8. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Quelle bénédiction! Tout cela à cause de l'œuvre de l'Esprit qui applique l'œuvre de Christ aux croyants. Et le reste du chapitre 8, c'est juste Paul. C'est juste un hymne de louange, une explosion de reconnaissance, de gratitude, de joie face à Dieu, le Père, l'œuvre de Jésus-Christ. Et tout cela va culminer dans deux textes tellement riches où Paul va mettre les points sur les i et les barres sur les ti, les t, et plante le dernier clou dans le cercueil de ceux qui disent que le salut se perd. Romains 8, 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune condamnation. Aucune séparation. Ça, c'est une structure passée pour Romains chapitre 8. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu vous donne, le Seigneur vous donne le goût. Sonder ses profondeurs, escalader ses hauteurs dans le but de mieux connaître notre Dieu, dans le but de mieux l'aimer, de mieux l'adorer. Parce que pour lui sont toutes choses. Et par lui aussi sans toute chose. Alors, regardons notre texte. Ça, c'était le contexte, l'introduction dans lequel on trouve Romains chapitre 8, 12 et 13. Le thème de ce texte est « Faites mourir le péché. Tuez le péché. Détruisez le péché. » Et c'est ce que le texte va nous dire au verset 13b. « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et c'est une exhortation que l'apôtre Paul vous adresse, m'adresse ce matin. Nous sommes exhortés de tuer le péché, de le faire mourir, de le détruire. Où il se trouve? Et attention, pas chez le voisin, mais chez vous, dans votre propre cœur, dans votre propre corps. Quelqu'un a bien dit que le jour que le pécheur a été sauvé. Il est devenu une guerre civile ambulante. Il est en guerre contre lui-même. Et la structure de ces deux textes, assez simple. Verset 13b, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le croix. C'est croire que nous devrions enfin tuer le péché, le détruire, le faire mourir. Ça, c'est le croix. Verset 12, c'est le pourquoi. Pourquoi tuer le péché? Pourquoi le faire mourir? Pourquoi le détruire? Et le verset 13, c'est de comment le faire. Comment? Ou si vous préférez, l'exhortation, tuer le péché. L'explication, pourquoi le faire. Et troisièmement, l'exécution. Comment le faire? Vous pouvez penser là dans les deux sens du mot. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par « faites mourir le péché »,« tuer le péché »,« détruisez le péché » ? Alors, laissez-moi vous dire qu'est-ce que cela ne veut pas dire. Puis ça va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire atteindre un état de perfection où on ne pêche plus. On porte des ailes en arrière. Nous sommes des anges, il y a un halo ici, et je suis saint dans le sens que j'ai atteint la perfection. Et ce qui dit cela, c'est parce qu'il tord le sens des Écritures. 1 Jean 3,9, il aime citer cela, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est le texte favori. Deux chrétiens arrivent à un stade où ils ne pêchent plus parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que c'est ce que 1 Jean 3,9 enseigne? Pas du tout. Parce qu'il y a une autre moitié de ce texte. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, c'est la clé. Quiconque est né de Dieu, le croyant, sa vie n'est pas caractérisée par le péché. Il ne pêche pas de façon continue et habituelle. Il ne se complaît pas dans la pratique du péché. Et ça, c'est la doctrine de Romains chapitre 6, où Paul va dire, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que notre vie va être caractérisée par un style de péché? Paul dit, non, loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Impossible! Jamais de la vie! Ceux qui ne sont pas encore convaincus, 1 Jean 1,8 dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons qui? Nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. » Et nous, on venait de voir Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, dans un état de sa vie, un homme mûr, un chrétien mûr, est aux prises avec le péché, Romains chapitre 7. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Il est là, le péché est présent. Et aussi longtemps que nous serons ici bas sur la terre, nous connaîtrons la lutte contre le péché. On va y goûter à Romains chapitre 7 de temps à autre. Mais bonne nouvelle, il est possible de connaître la victoire. Ça, c'est Romains chapitre 8. Il faut être réaliste. Il va y avoir des défaites, mais les défaites devraient être les exceptions et non pas la règle. Romains chapitre 6 au verset 12, c'est ça maintenant ce que ce texte veut dire. On a vu ce que cela ne veut pas dire, la perfection, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le chrétien va progresser dans sa vie de sanctification et de remporter des victoires et d'aller de victoire en victoire. Ça, c'est le sens de faire mourir le péché. Romains 6, 12 nous dit ceci, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. En d'autres mots, ne laissez pas le péché vous dominer. Ne laissez pas le péché vous contrôler. Ne laissez pas le péché avoir la victoire dans votre vie. Et comment est-ce qu'on fait cela? Mais Romains 6, 13 nous dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et quand nous faisons cela, et nous devenons, et nos membres deviennent des instruments de justice entre les mains de Dieu, et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu qui progressent dans la sanctification, et qui vont de victoire en victoire, et qui remportent la victoire. Alors, dans cette guerre contre le péché ce matin, contre votre péché, comment ça va ce matin? Si on mettait vos défaites et vos victoires dans les plateaux d'une balance, vers quel côté pencherait-il? Vers les défaites ou vers les victoires? Si vous êtes découragé, parce qu'on peut passer par des moments difficiles, je ne veux pas non plus minimiser la lutte que nous avons contre le péché. C'est une guerre. L'ennemi est redoutable. Et parfois, après une défaite cuisante, Satan nous dit, écoute, ça ne vaut pas la peine. Abandonne, laisse tomber. Qu'est-ce que ça donne? Si tel est votre cas ce matin, mais je vous exhorte, j'aimerais vous encourager de vous réfugier dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup le texte dans Hébreux 4, 15 et 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Il sait c'est quoi la lutte. Il sait c'est quoi la lutte contre le péché. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Seigneur, j'ai péché. J'ai failli. Comme en anglais, on dit « I blew it ». Mais le texte nous dit « Venir pour obtenir miséricorde ». Oui, Dieu est un Dieu qui ne se lasse de pardonner. Dieu d'un deuxième, troisième, xième chance. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Venir pour trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Et si vous êtes de ceux qui sont en train de remporter des victoires, mais gloire à Dieu, mais faites attention, restant humble, restez humble. N'ayez pas la tête enflée, parce qu'il y a un texte aussi qui dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, il y a un bon équilibre qui est nécessaire. Le découragement, on se réfugie dans les bras du Seigneur pour trouver grâce pour être secouru. Mais quand on remporte les victoires, mais donnant gloire au Seigneur et restant dans l'humilité. Alors ça, c'est l'exhortation. Tuez le péché. Détruisez-le. Faites mourir le péché. Soyez activement impliqués dans une guerre contre vos propres péchés. Mais là, le texte maintenant va nous amener dans l'explication, parce que Dieu sait que nous sommes comme des enfants. Vous dites à un enfant de faire quelque chose, et la première chose qu'il va vous dire, « Mais pourquoi? » Mais le texte va nous dire maintenant pourquoi. Et ce n'est pas parce que je vous le dis de le faire. Ça, c'est des fois les réponses des professeurs à l'école, quand les élèves disent « Mais pourquoi? » C'est parce que c'est moi la base, puis... Je vous dis quoi faire. Non, il y a aussi dans ce texte une explication. Pourquoi, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, pourquoi devrions-nous nous impliquer activement dans une guerre contre nous-mêmes? Mais la première raison que tuer le péché, faire mourir le péché, détruire le péché n'est pas une option. C'est une obligation. Ça, c'est la première raison. Regardez votre texte, s'il vous plaît, au verset 12. L'apôtre va dire ceci, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. » J'aime mieux la version Darby, qui nous donne le vrai sens, le sens de punch de ce texte. Il va traduire cela comme ceci, « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs. » Nous avons une dette. Non pas à la chair, pour vivre selon la chair. Alors, pourquoi tuer le péché? Parce que vous êtes débitant. Vous avez une dette à payer. Parole de vie traduit ce texte comme suit. C'est pourquoi, frère, nous avons une dette. Et ce n'est pas envers nos désirs humains. Et je sais que ça tourne dans votre tête. Vous êtes en train de penser à qui? Envers qui nous avons cette dette? Parole vivante va dire ceci. Si nous avons des obligations, et nous avons des obligations, ce n'est pas à l'homme livré à lui-même. Alors, quel est l'argument de Paul? Le petit bout de phrase « Ainsi donc, frère » le dit si bien. « Ainsi donc, frère » ou si vous voulez, « à cause de ». À cause de quoi? Tout ce qui vient avant. Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8, à cause des bénédictions et des privilèges énormes, nous avons quoi? Des responsabilités énormes. Et tellement énormes que Paul dit, vous avez une dette ce matin, vous êtes débiteur à Dieu. Débiteur pour vivre selon l'Esprit et qui va se traduire de façon pratique dans le contexte de Romains chapitre 8, 12 et 13 par une guerre contre le péché. Alors, pourquoi on est en guerre contre le péché? Parce que nous avons une dette. Nous sommes débiteurs à Dieu et cette guerre se traduit, comme je dis, dans le but de tuer le péché, de le faire mourir, de le détruire. Et je regardais ce texte à l'envers. Qu'est-ce qui arrive quand on ne tue pas le péché, quand on l'épargne? Vous savez, on va à l'encontre de ce texte. Et Paul va dire cela, si vous avez la version Louis II, c'est ce qu'il dit. Si vous ne détruisez pas le péché, si vous l'épargnez, vous agissez comme si vous étiez débiteur à la chair. C'est ça ce que le texte dit. Nous sommes débiteurs à Dieu. Mais si vous épargnez le péché chez vous, si moi j'épargne le péché, j'agis comme si j'étais débiteur à la chair. Et c'est ce que le texte dit. Ainsi donc, frère, vous n'êtes point redevable à la chair pour vivre selon la chair. Le thème, c'est de tuer le péché. Mais si vous ne le faites pas, vous agissez comme si vous étiez redevable à la chair en ne tuant pas le péché. C'est comme si on dit en bon québécois au péché, je devrais te tuer, mais j'en devais une à ma chair. Alors je t'épargne. Ça, c'est l'idée ici. Et ça, c'est un mensonge. Nous ne devons absolument rien à la chair. Et je vous donne une petite définition que j'ai trouvée utile. La chair, on peut le définir comme la nature humaine séparée de l'influence divine qui est prompte au péché, totalement corrompue et totalement anti-Dieu. Ça, c'est notre chair. Ça, c'est la chair. Corrompue, totalement anti-Dieu. Et avant notre conversion, nous étions ses esclaves. Et nous avions justement une obligation à le servir. Et qu'est-ce que la chair, où est-ce que la chair nous a menés? Je vous cite trois textes. Romains 7, 5. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Vous voulez savoir où est-ce que la chair vous amène? La mort. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Romains 6, 22, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Alors la seule chose que la chair peut faire, c'est d'amener le pécheur directement vers la mort. Alors, qu'est-ce qu'on lui doit? Absolument rien. Parce que la chair ne faisait absolument rien de bon pour nous, avant notre conversion, nous amener vers la mort. Mais j'aime beaucoup ce texte dans Romains chapitre 6 qui nous dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et comme je dis souvent, il reste quand même collé sur nous des poches de résistance. L'apôtre Paul appelle ça le péché dans nos membres. Et ce péché va être là jusqu'à notre glorification. Ou la Bible appelle ça la rédemption de notre corps. Où est-ce qu'on va avoir un corps glorifié? Mais ce matin, le mot d'ordre du général Jésus, c'est tuer le péché. Ne l'épargnez pas. Et ne dites pas, mais je t'épargne à cause de la douce mémoire de ma chair. Non, non, c'est pas ça. Vous ne devez rien à la chair, sinon de la haïr et de la détester. Alors, détruisez le péché, faites-le mourir, tuez-le, parce que vous ne devez rien à la chair. Deuxièmement, détruisez le péché, ne l'épargnez pas, parce que si vous l'épargnez, vous agissez comme des inconvertis. Regardez votre texte encore au verset 13a, où l'apôtre Paul dit, Romains 8, 13a, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Ah. C'est une menace aux chrétiens. « Hey, ne vivez pas selon la chair. Alors, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. » De quelle mort parle-t-il? C'est une mort physique? Et on pense que non, parce que croyants et non-croyants, on y passe tous. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tout le monde va y passer. Alors, il ne parle pas de la mort physique. Alors, il parle ici de la mort spirituelle. Mais est-ce que c'est une menace pour le croyant? Si vous vivez selon la chair, là, vous allez mourir, vous allez perdre votre salut. Là, il faut prendre l'ensemble des Écritures et puis regarder ce que la Bible dit dans son ensemble. Je vous ramène, il y a plusieurs textes qui nous disent que le salut ne se perd pas. Jean 10, 28, je le donne la vie éternelle. Et elles, les brebis, ne périront jamais. Et jamais pour moi, c'est jamais. Là. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est Jésus. Et même personne ne peut les ravir de la main de son Père. Et il y a d'autres textes aussi qui nous montrent la sécurité du croyant. Ce que Paul est en train de dire ici, là, c'est ce qu'on appelle une action. Action. C'est une vérité évidente. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Dans d'autres mots, j'essaie de mettre ça le plus simple possible. Ceux qui sont morts spirituellement vivent selon la chair. Ça, c'est évident. Un mort spirituel, il va vivre selon la chair. Et ceux qui vivent selon la chair ne font pas mourir le péché. Ça, c'est ce que le texte dit. Quelqu'un qui est mort spirituellement, il ne fait pas mourir le péché. Là, il aime le péché. Il est bien là-dedans. Et qui sont ces individus qui ne font pas mourir le péché, mais c'est des incroyants? C'est des personnes qui ne connaissent pas le Christ. Ce n'est pas les sauvés. Et Paul est en train de dire aux chrétiens ici, si vous ne faites pas mourir le péché, vous agissez comme des inconvertis. Vous allez ressembler aux inconvertis. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Les inconvertis ne font pas tuer le péché. Ils sont morts spirituellement. Ça, c'est le destin. Ils sont dans la mort spirituelle. Alors, vous ne voulez pas les ressembler. En ne tuant pas le péché, vous agissez comme eux autres. Et ils sont en train de frapper sur cette vérité que oui, c'est une obligation, un chrétien authentique tue le péché. Parce qu'ici, il ne tue pas, il est en train de ressembler à quelqu'un qui est mort spirituellement, qui ne tue pas le péché. Et Paul dit, vous n'êtes pas de cette race-là. Je vous donne un exemple dans 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'héritant pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, etc., etc. Bref, les gens qui ne tuent pas le péché n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Alors, vous ne pouvez pas ressembler aux païens. C'est impossible si vous dites que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas ressembler à celui qui ne tue pas le péché parce qu'il est mort spirituellement et vous n'êtes pas mort spirituellement. Vous avez la vie. Alors, tuez le péché. Faites-le mourir. détruisez-le parce que vous ne voulez pas ressembler aux païens. Vous savez aussi, il y a une autre chose ici qui est assez cruciale. Ne l'épargnez pas, soyez sans pitié, sans merci. Vous savez pourquoi? Parce que si vous épargnez le péché, en retour, il ne vous dira pas, mais merci, vous êtes bien gentil, vous m'avez donné une chance. Ah non, ce n'est pas ça. Quelqu'un a bien dit en anglais, « Kill sin or it will kill you. » Détruisez le péché dans votre vie ou le péché vous détruira. Et ça, c'est une vérité. Le péché, c'est votre ennemi juré. Et même si le péché ne peut pas enlever votre salut, si vous lui donnez la chance, la moindre chance, il peut détruire votre témoignage. Il peut détruire votre couple. Il peut détruire votre famille. Il peut détruire même l'Église. Et combien d'histoires tristes nous entendons des vies ruinées par le péché. Des mariages brisés, soldés par des divorces, des enfants qui sont poqués à cause du péché. Des églises qui sont divisées. Le coupable, c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché. J'ai cité tantôt, et on voit parfois sur les couvertures des Bibles, ce petit texte, ce livre vous gardera du péché, ou le péché vous gardera de ce livre. J'aimerais vous suggérer ce matin d'écrire un autre texte en dessous. Détruisez le péché ou le péché vous détruira. Citation de John Owen. John Piper a dit ceci, « Nous ne devons rien à la chair, sinon l'inimitié, ni inimitié et la guerre. Ne soyez pas mou à l'égard de votre destructeur et ne payez pas votre propre destruction. » Et je vous donne l'illustration qui m'a fait beaucoup réfléchir. Vous allez vous rappeler l'histoire de David, cette page noire dans l'histoire de ce roi qui était tellement brillant pour Dieu, qui a fait de grandes choses. Et le texte dit dans 1 Samuel, nous avons ce texte, l'année suivante, où les rois se mettaient en campagne. L'année où est-ce que les rois allaient à la guerre. Qu'est-ce que David a fait? David resta à Jérusalem. Voilà. Et il resta couché jusqu'au soir. L'oisivité, oisif. Et vous savez tous la suite. Le péché est venu. Il détruit sa vie. David et ses enfants. Il est tombé dans l'adultère, meurtre, toute histoire sordide. Pourquoi? Parce que pour un moment donné, pour une fraction de seconde peut-être même, il avait oublié qu'il était sur une pied d'alerte. Au lieu d'être sur le rouge, là, le code rouge, là, il est allé peut-être un code vert. Alors, c'est, tout est beau, il relaxe, il danse sur son lit, puis ah, la vie est belle à Jérusalem, puis là il envoie Joab, là, tiens, va, toi va tuer les ennemis. Détruisez le péché ou le péché vous détruira. Il a payé cher pour cela. Et finalement, je termine avec ceci. Et ça, c'est mon dernier texte. Détruisez le péché parce que vous n'êtes pas son débiteur. Détruisez le péché parce que vous ne voulez pas ressembler aux inconvertis. Mais détruisez le péché parce que vous êtes débiteur. Vous avez une dette à repayer. Et si vous ne détruisez pas le péché, vous démontrez de l'ingratitude à l'égard de Dieu. L'implication de Romains 8, 12 et 13 que nous sommes débiteurs, non pas la chair, mais nous sommes débiteurs à Dieu. Nous avons une dette. En bon québécois, nous lui en devons une. Il faut le repayer. Comment se fait-il que nous avons cette dette envers Dieu? Qui est-ce qui nous a délivrés de la pénalité du péché? cette pénalité atroce où les morts et ceux qui ne connaissent pas Christ vont souffrir éternellement dans les peines éternelles, dans le lac du feu. Le péché est tellement grave que même l'éternité ne suffira pas d'effacer justement cette insulte et cette offense contre la sainteté de Dieu. Et qui est-ce qui nous a délivrés de cela? C'est la chair? Non. C'est Jésus-Christ. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons une dette. Qui est-ce qui nous a délivrés du pouvoir du péché et la chair? Non. Avec la chair, on trouve déception, dégradation, dépravation, damnation et ultimement destruction. Ça, c'est ce que la chair. Amen. Avec le Christ, nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. Nous portons des fruits pour Dieu. Romains 7, 4. Et qui nous délivrera un jour même de la présence du péché? La chair. C'est le Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Nous serons glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Et nous serons semblables. Ceux qu'il a prédestinés, connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça, c'est le but de Dieu pour vous et pour moi qui sommes sauvés. Nous lui en devons une. Et comment est-ce que ça se traduit dans le pratico-pratique? Le texte nous dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du chair. C'est ça ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Et si le Christ, on va imaginer qu'il était ici ce matin, il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit, j'ai fait tout cela pour vous. Vous m'en devez une. Je suis en gain contre le péché. Prenez vos armes et suivez-moi. Et n'ayez pas crainte, la victoire est assurée. Comment lui répondriez-vous? Il y a un beau texte dans Apocalypse 19, 11 qui nous montre un peu qu'est-ce qui s'en vient. Un avant-goût de ce que nous devrions être en train d'expérimenter ici, aujourd'hui. L'apôtre va dire ceci, l'apôtre Jean, je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc, celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les armées qui sont dans le ciel, le suivirent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et chers enfants de Dieu, ça c'est vous et ça c'est moi, nous sommes ici avec le Christ, sur des chevaux de victoire, le cheval blanc, et nous sommes avec Christ qui combat avec justice. Ça, c'est notre futur glorieux. Un jour, c'est vrai, on va avoir la victoire totale, notre destinée. Mais ce matin, le Christ, Général Jésus, est ici ce matin. Il dit, commencez maintenant. Prenez vos armes, tuez le péché. Faites mourir le péché. Notre texte, qui est dans un autre sens. Je vis un grand trône blanc. Dans le même livre d'Apocalypse, c'est celui qui était assis dessus. Je vis les morts, les grands, les petits qui ne se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Et si ces personnes restent, et si vous êtes ici parmi nous ce matin, et c'est tel est votre cas, et vous restez tel que vous êtes, vous y serez aussi. Mais pas sur un cheval blanc, en celui qui est victorieux, mais vous serez là comme un perdant. Parce que aussi, vous avez une dette. Vous avez une dette. La dette de vos péchés. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ a payé cette dette à la croix. Et ce matin, il vous offre gratuitement le salut et aussi la possibilité de changer de camp et de devenir un soldat dans son armée. J'aime beaucoup le texte qui dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Vous ne connaissez pas le Christ, alors ce matin, je vous invite de venir au pied de la croix, de mettre votre confiance dans son sacrifice. Lui a payé la dette. Alors voilà, le péché doit être détruit. Ce matin, nous avons vu l'exhortation, tuer le péché. Nous avons vu aussi l'explication, pourquoi le tuer. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous verrons l'exécution, comment le faire. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes, que le Saint-Esprit maintenant est à l'œuvre dans nos vies, en appliquant l'œuvre de Christ, celui qui a été victorieux, et avec qui aussi nous pouvons être victorieux. Tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais nos luttes, tu connais nos chutes, tu connais nos faiblesses. Ce matin, nous tournons nos yeux vers toi, nous te demandons de nous fortifier. Nous donner cette force, Seigneur, de prendre les armes que tu nous donnes. Tu nous as équipés, tu nous as armés pour ce combat spirituel. Fais de l'église de Cap-la-Madeleine une église qui remporte les victoires. Les hommes et les femmes qui marchent de victoire en victoire. Et Seigneur, que nous puissions être de ceux qui sont activement en train de tuer le péché dans nos propres vies. Garde-nous d'être endormis. Garde-nous de baisser le bras. Ta parole nous dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant celui qui dévorera. Protège-nous notre Dieu et fortifie-toi un peu. S'il y a quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas, Seigneur, on te demande ta grâce, ta miséricorde pour cette personne. Ouvre ses yeux. Montre-lui son état devant toi. Et donne à elle, Seigneur, cette personne de venir au pied de la croix, d'accepter Christ comme son sauveur personnel. C'est par nous avec ta bénédiction. Merci encore une fois pour toutes tes grâces. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.